Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Émission spéciale sur RFI.
Appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
Bienvenue au Bénin, où l'on s'apprête à célébrer un événement historique. Demain, cela fera 35 ans que se terminait la conférence nationale qui a permis au pays de mettre fin au régime autoritaire du président Mathieu Kérékou et de jeter les bases de la démocratie et de l'état de droit. Pour la première fois en Afrique francophone et en seulement 10 jours, près de 500 participants sont parvenus à s'entendre sur une feuille de route pour permettre au pays d'entrer de plein pied dans l'ère de la démocratie, et cette initiative béninoise fera date, car dans les mois et les années qui ont suivi, de nombreux États sur le continent vont s'inspirer de la conférence des forces vives du Bénin pour, à leur tour, décréter la démocratie et instaurer le multipartisme. L'occasion donc, ce matin, de dresser un état des lieux. Où que vous soyez sur le continent, racontez-nous comment s'est déroulée la conférence nationale dans votre pays, que reste-t-il de l'euphorie de l'époque. Dites-nous si trois décennies après, les acquis de votre conférence sont préservés. Vos témoignages, évidemment, nous intéressent. Et pour dialoguer avec vous, trois invités que je vous présente. Bonjour Théodore Holo. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien ministre des Affaires étrangères, et vous avez activement participé aux travaux de la conférence nationale. Bonjour Gilles Yabi.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, analyste Merci. Politique, fondateur de Wati, un think tank, un laboratoire d'idées citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes basé à Dakar au Sénégal. Vous êtes bien connu de nos auditeurs. Durant 5 ans, vous avez présenté la chronique « Ça fait débat » avec Wati. Également parmi nous ce matin, le père Nathanaël Soédé. Bonjour mon père.
Bonjour.
Aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin, l'Église catholique qui, rappelons-le, a joué un rôle central dans la bonne organisation de la conférence nationale ici au Bénin, mais aussi dans la plupart des pays où ces assises ont été organisées. Avant de passer au standard, un petit tour de table rapide. Théodore Holo, vous étiez membre du présidium qui a dirigé la conférence nationale le 28 février 1990. Aviez-vous conscience de vivre un jour historique pour le Bénin, mais aussi pour l'Afrique ?
Jour historique pour le Bénin, puisque de façon pacifique, nous allons aborder une phase de vie démocratique et nous avons le sentiment que le dialogue est un élément essentiel du mieux vivre ensemble. Mais on n'avait pas le sentiment que cette initiative allait faire tache d'huile à l'Afrique,
oui.
Puisque nous étions dans une situation de crise que ne connaissaient pas nécessairement tous nos voisins. Quand je prends le Bénin, les salaires n'étaient pas payés. Au Togo, on se permettait depuis le 13e mois. Et malgré cela, la situation a fait que la conférence nationale aussi a pu avoir lieu au Togo.
Et il y avait un doute quand même ce 28 février 1990. Il se dit que le président Mathieu Kérékou, qui était au pouvoir depuis une vingtaine d'années, qui a donc accepté la tenue de cette conférence, Mathieu Kérékou, ce jour-là, avait sous le coude deux discours, l'un pour approuver les résolutions et l'autre pour les refuser.
Il y avait ce doute, puisque déjà le président Kérékou avait accepté la déclaration de souveraineté de la conférence, mais ses partisans n'étaient pas tous de cet avis. Allait-il accepter toutes les décisions que nous avions prises à la conférence nationale qui le dépouillaient d'une bonne partie de ses prérogatives ? On raconte qu'il avait deux discours, mais il a lu le bon discours qui a été un soulagement pour le peuple béninois.
Le peuple béninois qui, ce jour-là, était devant son poste de télévision ou les oreilles collées au transistor, puisque ce discours, comme toute la conférence nationale, était diffusé en direct à la radio et la télévision. Gilles Yabi, l'expérience béninoise, je le disais en préambule, a été copiée dans de nombreux pays. Est-ce à dire que le Bénin a servi finalement de laboratoire démocratique pour l'Afrique ?
Oui, je pense un laboratoire, mais je pense que comme le professeur Holo vient de le dire, il y avait une situation de crise au Bénin, crise économique et sociale et crise politique qui était derrière, disons, cette décision d'organiser ces assises. Et je pense qu'ensuite, dans les autres pays africains, il y a eu effectivement une possibilité. Ils ont vu que cela était possible de changer en fait de système, de passer à un multipartisme intégral avec un véritable plan, disons, de démocratisation. régions. Et je pense que ça a forcément encouragé beaucoup d'autres acteurs à se dire, c'est possible, on va pousser également pour ce type de conférence nationale.
Et nombreux sont les auditeurs ce matin qui souhaitent témoigner du déroulement de la conférence nationale dans leur propre pays. Père Nathanaël Soédé, si la conférence nationale a été un succès, c'est en partie aussi grâce à l'Église catholique. Monseigneur de Souza était l'homme de la situation pour diriger les travaux.
Oui, mais je crois qu'il faut le dire avec beaucoup d'humilité, tellement l'homme était humble. C'est un ensemble, n'est-ce pas, de contextes qui a permis cela. Une Église ouverte sur la société. Déjà, pendant la Révolution, où on avait, bien sûr, des moments difficiles, on a connu des prêtres qui ont été arrêtés. Alors, tout cet ensemble d'événements a fait que l'Église a participé fortement à la croix que les gens ont porté.
Alors, l'émission est exceptionnellement enregistrée ce matin, mais depuis la semaine dernière, vous avez pu vous inscrire sur nos réseaux sociaux pour nous livrer vos témoignages et dialoguer avec nos invités. Nous avons des réactions du Togo, du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Tchad, de Guinée. Mais comme nous sommes au Bénin, commençons tout de même avec quelques auditeurs béninois. Bonjour Ernest.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Cotonou.
Bonjour, millions d'auditeurs.
En février 1990, vous disiez au Standard que vous aviez 22 ans. Quel souvenir gardez-vous de l'époque ?
Ah, moi, je me souviens qu'à cette époque, l'année scolaire était blanchie. Moi, j'avais des amis qui sont allés au Togo pour aller passer les examens, mais les Béninois sont restés, nous, élèves d'antan, élèves étudiants d'antan, nous sommes restés sans les examens. Mmh. Est-ce que vous voyez ?
Oui. Le pays était paralysé, pour dire clairement les choses.
Le pays était paralysé, les fonctionnaires n'allaient plus au travail, et les étudiants en grève, les élèves, tout le monde était en grève.
Et vous suiviez, vous, les débats à la radio de la conférence nationale ?
Oui, c'était du direct qui se faisait, c'était du direct, une sorte que chaque Béninois avait son transistor collé à l'oreille pour pouvoir suivre ce qui se passait. Tout l'espoir était placé dans le temps-là, à la conférence nationale, que lorsqu'il va, il y aura un lendemain meilleur.
Et justement, Ernest, vous, qu'attendiez-vous de la conférence nationale dans votre pays ?
Qu'il n'y ait plus de l'année blanche, et que les papas qui votaient, qui allaient à la fonction, puissent être payés, parce qu'il y avait 6 mois d'arrivée du salaire.
Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'à l'époque Théodore Rollot, les fonctionnaires n'étaient plus payés. Les fonctionnaires, ce qu'ils voulaient avant tout, ce n'était pas tant le retour du multipartisme, ce qu'ils voulaient, c'était un salaire à la fin du mois.
Il était normal que les fonctionnaires puissent attendre le salaire après avoir travaillé. Et je crois qu'ils ont fait preuve quand même d'humilité, puisque pendant des mois, sans salaire, ils ont continué à faire tourner les administrations. À un moment donné, tout le pays était bloqué. Les gens n'avaient plus les moyens de se déplacer pour aller travailler. Tout le monde était en grève. Il fallait trouver une solution.
Gilles Yabi, il se dit qu'à l'époque, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, avait fait pression pour que cette conférence nationale se tienne, justement pour permettre au pays de redresser son économie. L'économie était en faillite.
Oui, l'économie était en grande difficulté et c'est vrai qu'on a toujours un lien entre les conditions économiques et sociales et les mouvements politiques, les crises politiques. Et souvent, effectivement, on a des crises économiques et sociales qui déclenchent ensuite une crise politique. Et justement, je pense que la pression s'est accentuée à ce moment-là sur le pouvoir en place pour qu'une forme de détente politique crée les conditions également de nouveaux rapports avec des institutions financières internationales dont il ne faut jamais oublier qu'ils ont des actionnaires qui sont aussi des pays importants qui peuvent faire pression sur le plan politique.
Oui, Père Soédé, je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on accueille Innocent. Il est également au Bénin, il est à Semepodji. Bonjour Innocent.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe et bonjour au panel.
Merci de vos encouragements. Vous disiez au Standard, si la conférence nationale n'avait pas eu lieu ici au Bénin, vous ne seriez probablement pas en train de nous parler ce matin à la radio. Expliquez-nous.
Moi, j'ai pas connu l'année blanche, mais plutôt ce que j'ai connu, c'était cette psychose de Yedja, chez nous, c'est qu'ils viennent, ils viennent, ils arrivent. En fait, qui sont ceux qui arrivent? C'est les policiers, parce que même les manifestations groupées étaient interdites. Donc nous, on vivait cette situation de psychose-là, de Yedja-Yedja-là, donc c'est ça qui nous a beaucoup plus traumatisés.
Ouais.
En ce temps-là, la communication aussi était censurée. Et aujourd'hui, maintenant, on voit, après les conférences des forces vives de la nation, il y a quand même un vent de liberté. Aujourd'hui, on peut communiquer librement. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je me réjouis du fait que les acquis démocratiques, il y a quand même cette liberté de communication, liberté d'action qui fait partie quand même des droits dont nous, jeunes, avons hérité en ce temps.
Gilles Yabi, on parle de la liberté d'expression. Cette conférence nationale a permis aux Béninois de se parler. Parfois, les débats ont été houleux durant les 15 jours de la conférence nationale, mais les Béninois se sont parlé franchement, en toute liberté, les yeux dans les yeux lors de cette conférence.
Oui, je pense que le professeur Holo le rappelait, les vertus du dialogue, le fait de dire que pour sortir de la crise, il faut dialoguer et il faut surtout s'assurer que toutes les composantes de la société font partie de cette discussion. Et je pense que ils ont réussi non seulement à avoir ce dialogue franc, mais en même temps à émettre un certain nombre de formes pour ne pas antagoniser justement ceux qui étaient au pouvoir. Et il faut se rappeler quand même que avec le président Kérékou, il y avait aussi des militaires qui d'ailleurs faisaient partie de la conférence nationale. Et donc il était important aussi à nouveau de mettre un certain nombre de formes et de ne que ce ne se soit pas transformé en procès contre justement
le régime. Il ne fallait pas froisser les militaires qui étaient au pouvoir.
Il fallait, je pense, surtout leur montrer qu'il était aussi dans leur intérêt de travailler justement à l'émergence d'un nouvel ordre politique, même ceux qui ont été, d'une certaine manière, ont fait partie de l'appareil politique et sécuritaire qui a quand même restreint les libertés pendant longtemps au Bénin, ont fait partie de la solution.
De nombreux pays sur le continent africain se sont inspirés justement de la conférence nationale souveraine du Bénin. C'est le cas notamment au Tchad. Gédéon, bonjour.
Bonjour Juan.
Gédéon, vous souhaitiez justement prendre la parole ce matin, vous aviez envie de nous raconter comment la conférence nationale en 93 dans votre pays s'était déroulée. À l'époque, vous étiez jeune étudiant, je crois.
Effectivement Juan, et pendant ce temps, le pays était dans une situation extrêmement catastrophique. Eh bien, après la chute de Hissène Habré, et lorsque le président Déby a pris le pouvoir, il y avait également des bandes armées partout dans le pays, il y avait une forme de razzia, on arrachait des motos, les biens par-ci, il y avait des tueries, et il y avait également dans l'administration une certaine psychose, puisque les salaires n'étaient pas payés pendant plusieurs années. Et là, le climat social avait été complètement en nu, il y avait un déchirure du tissu social, eh bien, il va falloir la conférence nationale souveraine. L'esprit de cette conférence était d'avoir le pardon. Il fallait que les Tchadiens puissent dire ce qu'ils pensent.
Gédéon, et puis surtout, ce qui ressort aussi de cette conférence nationale, mais comme dans tous les autres pays qui ont organisé ces assises, c'est l'élaboration d'une nouvelle constitution.
Effectivement, il fallait un pacte social. Et la nouvelle constitution a eu lieu le 31 mars 1996. Et cette constitution permettait, n'est-ce pas, la liberté d'expression, la démocratie dans toutes les formes.
Mais une constitution qui, depuis, a plusieurs fois été révisée. Et là, je m'adresse à l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin que vous êtes, Théodore Holo. Toutes ces conférences nationales ont adopté de nouvelles lois fondamentales accordant de nouveaux droits. Et ensuite, ces droits ont été bafoués.
En tout cas, quand je prends le cas du Bénin, l'une des exigences fondamentales, c'était garantir l'alternance par les unes, par la limitation des mandats. Cet élément se retrouve dans beaucoup de constitutions post-conférence nationale. Mais je crois qu'au bout d'un premier mandat, que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Togo, ce verrou a sauté.
Oui. Et notamment au Tchad, d'où nous appelle Gédéon.
Et également au Tchad. Ce qui fait que l'alternance, qui est un élément essentiel de la démocratie, n'a plus prospéré.
Allez, je donne la parole dans un instant à Gilles Yabi et au père Soédé, mais Fabrice souhaite nous parler de son pays, le Togo. Bonjour Fabrice.
Bonjour Anne et bonjour également à tous les panélistes.
Oui, certains auditeurs du Togo nous disaient sur les réseaux sociaux, en substance, je résume leurs pensées, dans notre pays, c'est comme si la conférence nationale n'avait jamais eu lieu. Vous partagez, vous, ce ressenti, Fabrice ?
Oui, je partage parce que aujourd'hui, on peut dire que ça a été un échec total, la conférence nationale au niveau du Togo, sur plusieurs plans. Et d'abord, on parlera peut-être de la liberté d'expression aujourd'hui. Oui, on l'avait déjà au lendemain du 5 octobre, qui est la date phare du début de la démocratie au Togo. On avait déjà la liberté d'expression avec une presse plus ou moins pluriel. Alors, on nous avait dit qu'avec la conférence, on devait repartir sur de nouvelles bases. Et effectivement, avant cette conférence, il y a eu une loi d'amnistie qui a permis à beaucoup d'exilés de retrouver le pays pour échanger. Mais là, le spectacle que nous a réservé la conférence nationale, d'abord qui a été transformée en souveraine, c'est qui n'a pas plu à beaucoup d'acteurs. Et à la fin, ça a été un échec total sur toute la ligne.
Alors, ça a été un échec, et je rebondis sur les propos de Théodore Rollo et de l'auditeur précédent, Gilles Yabi. Les constitutions adoptées à l'époque dans ces pays ont systématiquement été révisées, à l'exception du Bénin, mais dans tous les autres pays. Concernant le mandat présidentiel, le verrou a systématiquement été levé.
Oui, je pense qu'il faut vraiment rappeler qu'une conférence nationale, c'est un moment. Ce moment permet de décider d'un nouvel ordre politique basé sur de nouveaux principes, mais rien ne nous dit ensuite que ces principes vont être respectés par les acteurs.
Si on prend le cas du Togo, à l'époque au pouvoir, il y avait Eyadema. Oui. Eyadema est resté au pouvoir jusqu'à sa mort.
Absolument.
Il aurait pu, puisqu'il accepte les principes, les recommandations de cette conférence nationale, il aurait pu ensuite les appliquer.
Je pense que les acteurs qui voulaient des changements dans les pays africains ont vu l'expérience béninoise et ont voulu la répliquer, mais de l'autre côté, les gouvernants ont aussi vu l'expérience béninoise et se sont sans doute dit, on va faire tout, peut-être pour avoir une conférence nationale, mais pour s'assurer que, en réalité, cela ne changera pas la réalité. Et je pense que c'est ce qui s'est passé au Togo, c'est ce qui s'est passé au Tchad, dans beaucoup de pays où la conférence nationale n'a pas créé les conditions d'une alternance et d'un départ de ceux qui étaient au pouvoir.
Perso aidé, l'Église était présente au moment des conférences nationales. Elle a aussi été présente par la suite dans de nombreux pays pour que les résolutions soient véritablement respectées ensuite.
Oui, c'est vrai. Et au Bénin, je crois qu'il faut souligner un avantage qu'on avait, c'est que l'Église a souffert avec les gens. Mais en même temps, elle a été victime, plus que d'autres, des institutions, des écoles qui lui ont été arrachées. Mais elle est restée quand même fidèle à sa mission et était le recours de bien des gens dans cette misère.
Alors, on va prendre un dernier auditeur avant le journal Afrique. Bonjour Gabriel.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, et au début des années 90, vous étiez militant. Je crois que vous militiez au sein du parti qui était au pouvoir, le PDG.
Je militais au Parti démocratique gabonais. Donc, la conférence du Bénin, déjà, a eu un souffle, un tout petit peu d'inquiétude, parce que elle, qui était souveraine, a vu partir le président Kérékou. Et lorsque la conférence commence au Gabon, effectivement, nous avions aussi cette inquiétude-là qu'elle ne débouche par le départ du pouvoir du président Bongo.
Vous souhaitiez que le président Bongo reste au pouvoir?
La conférence du Bénin était souveraine, la nôtre pas. Elle n'était pas souveraine, donc toutes les résolutions devaient d'abord être soumises aux institutions, afin de valider ou pas. Donc de ce côté, je pense que les barrières avaient été bien placées pour qu'elles ne débordent pas, qu'elles n'aboutissent pas, comme ce qui s'est passé bien avant au Bénin.
Oui, et donc finalement, vous avez été rassuré quand vous avez découvert, comme tous les Gabonais, les résolutions de cette conférence nationale dans votre pays.
On a été rassuré, sauf que bien d'entre nous ne voulaient pas forcément immédiatement le multipartisme, parce qu'on a commencé la conférence nationale avec une proposition d'un parti unique qui devait inclure tout le monde, et ceux qui s'opposaient à Bongo, et le parti de Bongo, dans le RSDG, Rassemblement Social-Démocrate Gabonais. C'est dans ce moule-là que devait continuer la politique au Gabon. C'est que...
Mais vous aviez peur du multipartisme, Gabriel, à l'époque?
Oui, mais bien sûr qu'on avait peur du multipartisme. Tout simplement parce qu'on sortait de 20 ans de monopartisme et on ne savait pas à quoi devait nous faire aboutir. Ça, c'est tout au moins des groupes au sein du PDG.
Effectivement, et le multipartisme a finalement été restauré. Il y a eu ensuite systématiquement que des élections contestées au Gabon. On va revenir au Gabon dans 10 minutes, juste après la dernière édition d'Afrique Matin. Je ferai réagir, bien évidemment, nos invités Théodore Rollo, Gilles Yabi et le père Nathanaël Soédé. Reste avec nous à suivre la dernière